VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 13 décembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, des victimes ont encore été signalées hier pendant la campagne pour les élections du 23 décembre.
Arrestation hier en France du centrafricain Patrice Edouard Ngaïsona, ex-chef de milice anti-Balaka.
Arrestation au Mali de 4 membres d'une cellule terroriste préparant des attentats dans la région.
Au Niger, sit-in d'une centaine de réfugiés soudanais devant le siège du HCR à Niamey.
Ici aux États-Unis, Michael Cohen, l'ancien avocat du président Donald Trump, a été condamné hier à 3 ans de prison.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Campagne électorale en République démocratique du Congo, encore des morts parmi les partisans du candidat de l'opposition Martin Fayulu à l'arrivée du candidat de la coalition d'opposition Lamuka à Kalimi. Martin Fayulu a évoqué également les 2 personnes tuées la veille à son arrivée à Lubumbashi et promis de saisir la justice, tandis que l'ONU appelle au calme. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des violences ont éclaté à Kalemi dans le Tanganyika à l'arrivée du candidat Martin Fayulu et ont fait 1 mort selon des sources officielles, 3 selon l'équipe de campagne du candidat numéro 4 à la présidentielle. Martin Fayulu a malgré tout pu tenir son meeting sur place mais n'a pas pu se rendre par la suite à Kolwezi comme le prévoyait son programme. Sur son compte Twitter, il dit que son avion a été dérouté pour ne pas atterrir à Kolwezi où il était pourtant attendu par ses partisans. Martin Fayulu et son équipe de campagne ont finalement passé une nuit à Goma dans le Nord Kivu. Programme de meeting perturbé également pour Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Le ticket cash entendait cap pour le changement n'a pas pu se rendre à Butembo après l'étape de Beni, évoquant des raisons sécuritaires. Félix Tshisekedi a même ouvertement accusé la coalition Lamuka qui soutient Martin Fayulu d'avoir planifié leur agression sur place à Butembo. Le président de l'UDPS Tshisekedi et son équipe ont finalement passé une nuit à Kisangani et seront en Bujimaï dans le Kasaï oriental cet après-midi. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari a lui tenu mercredi son meeting à Bunia dans le chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces violences qui ont provoqué mort d'hommes à Lubumbashi puis à Kalemi sont condamnées par l'ONU. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, s'est dit préoccupée par la succession d'incidents graves et appelle les uns et les autres au calme. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Patrice Edouard Ngaïsona, un ex-chef de milice anti-Balaka en Centrafrique, a été arrêté hier en France sur la base d'un mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale. Le point avec Morgane Guériec.
Patrice Edouard Ngaïsona, ancien coordinateur politique des milices anti-Balaka, a été arrêté hier à Paris après un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour de présumés crimes en Centrafrique entre septembre 2013 et décembre 2014. Monsieur Ngaïsona est un homme d'affaires né en 68. Depuis 2008, il est président de la Fédération centrafricaine de football et préside aussi l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Il a été élu en février au comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football. Arrêté en février 2014 au Congo-Brazzaville, il sera remis en liberté sous contrôle judiciaire. Par la suite, il a renoncé à la lutte armée pour créer le Parti centrafricain pour l'unité et le développement. En 2015, il a même tenté de se présenter à la présidentielle, mais sa candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle. Son arrestation intervient quelques semaines après la remise à la CPI d'un autre ex-chef de milice anti-Balaka, Alfred Yekatom, alias Rambo. Pour Pierre Brunisseau, de la FIDH à Bangui, la CPI doit aussi s'intéresser au cas des leaders de l'ex-Séléka, qui continuent de semer la terreur dans plusieurs villes du pays.
2 djihadistes présumés originaires du Burkina Faso, un autre du Mali et un de Côte d'Ivoire, soupçonnés de préparer des attentats dans ces 3 pays, ont été arrêtés la semaine dernière. Selon un communiqué publié hier par les services de renseignement maliens, les 4 membres de cette cellule terroriste démantelée jeudi dernier aux environs de Koutiala, près de la frontière burkinabé, ont participé au double attentat effectué le 2 mars dernier à Ouagadougou, ainsi qu'à l'enlèvement d'une religieuse colombienne en février 2018. 2017 dans cette région du Mali, selon le texte. Il s'apprêtait à perpétrer des attentats dans certains points sensibles d'Abidjan, de Bamako et de Ouagadougou lors des fêtes de fin d'année, selon le même communiqué.
Au Niger, une centaine de réfugiés soudanais ont entamé hier un sit-in devant le siège du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Niamey. Ils demandent leur installation dans des pays tiers, notamment en Europe, Claire Morin-Gibourg.
Une dizaine de protestataires ont agité des banderoles sur l'une des principales routes où se trouve le siège du HCR à Niamey. D'autres étaient couchés sous un hangar du parking de l'agence onusienne. C'est le HCR qui nous a amenés ici de Libye depuis une année et nous voulons savoir si on nous a trouvé une solution pour quitter le Niger, a déclaré Younoussa Ibrahim, leur porte-parole. Il pointe des discriminations. Selon lui, les Érythréens et les Éthiopiens ont déjà reçu des papiers pour quitter le Niger pour l'Europe et l'Amérique. Le HCR explique que la situation est due aux quotas qu'offrent les pays européens et que la réinstallation des réfugiés soudanais n'est pas envisagée pour le moment. Toujours selon le HCR, les réfugiés bénéficient au Niger d'un toit et de travail sur les chantiers de construction. Depuis novembre 2017, plus de 1500 réfugiés ont été évacués de la Libye vers le Niger. Des centaines de demandeurs d'asile ont pu être réinstallés en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède et en Finlande, mais d'autres attendent toujours un pays d'accueil.
Le procureur général du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a annoncé mercredi à la presse qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposante Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. L'accusation n'est pas satisfaite du jugement et nous avons décidé d'interjeter appel dans les prochains jours, a déclaré M. Mutangana lors d'une conférence de presse.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, l'ancien avocat du président Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné hier à 3 ans de prison par un juge fédéral de Manhattan après avoir reconnu qu'il avait couvert, et je cite, les sales coups du président. Des détails avec Irénée Herman Ungbo.
Avant que la peine ne soit prononcée, Michael Cohen a pris la parole. D'une voix étranglée, il a expliqué avoir eu tort de se compromettre au service de Donald Trump pour lequel il a été un véritable homme à tout faire durant plus d'une décennie. Il avait raison de me traiter de faible, mais pour une autre raison. Je pensais que c'était mon devoir de couvrir ces sales coups plutôt que d'écouter ma conscience, regrette l'ex-avocat personnel du locataire de la Maison-Blanche. Il a été condamné pour avoir acheté à la demande du milliardaire le silence de 2 femmes affirmant avoir eu une liaison avec lui. En novembre, il a aussi avoué avoir minimisé devant le Congrès l'ampleur des contacts de l'équipe de campagne de M. Trump avec Moscou. Michael Cohen, 52 ans, a obtenu de ne servir sa peine qu'à partir du 6 mars. Il a été pendant 10 ans vice-président de la Trump Organization et l'un des hommes de confiance du milliardaire new-yorkais. Il a opéré en quelques mois un retournement de veste spectaculaire.
Le Sénat américain a envoyé hier un nouvel avertissement au président Donald Trump et à l'Arabie Saoudite en autorisant la tenue d'un vote sur une résolution visant à interdire tout soutien militaire à Riyad dans la guerre au Yémen. Le vote final aura probablement lieu ce jeudi. Les rangs républicains sont apparus plus clairsemés que lors du premier vote de procédure fin novembre. Cependant, l'indignation reste vive, y compris chez les républicains, face au rôle de Riyad dans la guerre civile au Yémen et dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Le président Trump a émis des doutes sur la responsabilité du prince héritier Mohammed bin Salman et a souligné l'importance stratégique et économique de l'alliance avec Riyad.
Tout juste rescapé d'un vote de défiance, la première ministre britannique Theresa May va tenter d'obtenir ce jeudi à Bruxelles de nouvelles garanties sur l'accord de Brexit face à des Européens prêts à l'aider à convaincre son Parlement, mais excluant de renégocier les termes du divorce.
Un deuxième ressortissant canadien, Michael Spavor, est porté disparu en Chine depuis qu'il a été interrogé par les autorités de ce pays, a annoncé jeudi à l'AFP le porte-parole du ministère canadien des Affaires étrangères. Ces disparitions interviennent alors qu'à Vancouver, mardi, Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, a été libérée sous caution dans l'attente d'une procédure d'extradition vers les États-Unis qui la soupçonne de violation de sanctions américaines contre l'Iran. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Ouganda, les investisseurs des pipelines de pétrole brut veulent un tarif plus élevé que celui convenu initialement, ce qui risque de retarder le début de la production pétrolière. L'Ouganda, pays enclavé, veut emprunter la Tanzanie pour rejoindre le port de Tonga dans l'océan Indien afin de lui permettre de transporter ses 6,5 milliards de barils de réserves de brut à partir de champs situés à la frontière avec la RDC. Le tarif de transit était censé coûter 12,20 dollars par baril acheminé. Les entreprises partenaires exigent plus. En Tunisie, les recettes touristiques ont rapporté 1,2 milliard de dollars, soit une hausse de 40,5% en 2018 par rapport à la même période de 2017, selon le ministère du Tourisme tunisien. L'agence Ecofin rapporte que le nombre de touristes a enregistré une augmentation de 17,2% entre janvier et juillet de l'année en cours, comparativement à la même période de l'année écoulée, pour s'établir à 7,5 millions. Terminons avec la société Bolloré qui a été mise en examen à Paris sur des soupçons de corruption autour de l'obtention de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest, notamment concernant les ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée, via une de ses filiales Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. Bolloré est aussi poursuivi pour corruption d'agents étrangers et complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux, tout comme M. Bolloré.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Maroc ne sera pas candidat à l'organisation de la CAN 2019.
Le Maroc n'avait pas l'intention de présenter sa candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et ne le fera pas, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talabi El. Le Maroc était parmi les prétendants les plus cités pour organiser la CAN 2019 après le retrait du tournoi au Cameroun. Les prétendants ont jusqu'à vendredi minuit pour manifester leur intérêt. Le pays hôte de la CAN prévue du 15 juin au 13 juillet sera connu le 9 janvier.
La Supercoupe d'Afrique délocalisée au Qatar.
Comme pressenti, la Supercoupe de la CAF entre l'Espérance Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions, et le Raja Casablanca, sacré en Coupe de la CAF, va bel et bien se disputer au Qatar. Ainsi en a décidé le comité exécutif de la CAF. Ce choix fera grincer des dents du côté des sang et or, puisque c'est généralement le vainqueur de la Ligue des Champions qui a l'avantage d'accueillir cette affiche à domicile. La CAF précisera plus tard la date de la rencontre.
Seydou Mombo Ndoya est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football.
Oui, il a été élu à l'issue d'une assemblée générale de la FECAFOOT qui a eu lieu en Bankomo, une banlieue de Yaoundé. Notre correspondant dans la capitale camerounaise, Emmanuel Jelentap, nous dit qui est ce nouveau patron du football camerounais.
C'est un verdict qui n'a pas surpris les observateurs de football camerounais. Seydou Mombo Ndoya, ancien premier vice-président de la Fédération camerounaise de football en 2013, était donné grand favori avant cette élection. Il avait comme allié Samuel Etofis, Gilbert Kadit Fosso, riche homme d'affaires, et même le gouvernement camerounais dans une certaine mesure. Un ministre et pas de moindre Grégoire Orona, par ailleurs secrétaire général du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, rappelait via sa page Facebook qu'il soutenait la candidature de son camarade de parti. Seydou Mombo Ndoya devient le 17e président de la Fédération camerounaise de football. C'est le 3e échec de Joseph Antoine Bell à la quête de la Fédération camerounaise de football. Cette élection a cependant profondément divisé les footballeurs, les anciennes gloires Albert Roger Mila et Samuel Etofis notamment. Les Camerounais espèrent que le nouveau président de la FECAFOOT qui s'est présenté comme l'homme de la situation durant la campagne va rassembler la famille du football camerounais Yaoundé, Emmanuel Jelentap, VOA Afrique.
Europa League ce soir.
Séville et l'AC Milan sont en ballotage favorable pour se qualifier pour les quarts de finale s'ils terminent le travail respectivement face à Krasnodar et l'Olympiakos. A contrario, les Grecs devront battre Milan par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier. Dans le groupe B, dominé par Salzbourg, le dernier ticket en jeu se jouera entre le Celtic et Leipzig. Le club écossais sera qualifié en cas de victoire ou de nul contre Salzbourg, ou encore si Leipzig ne gagne pas face à Rosenberg. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Charlotte et Détroit, 108 à 107, Cleveland et New York, 113 à 106, Indiana et Milwaukee, 113 à 97, Brooklyn et Philadelphie, 127 à 124, Boston et Washington, 130 à 125, Memphis et Portland, 92 à 83, La Nouvelle-Orléans et Oklahoma City, 118 à 114, Dallas et Atlanta, 114 à 107. Utah et Miami, 111 à 84.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur les élections en République démocratique du Congo à 10 jours des élections couplées du 23 décembre. Le débat sur la machine à voter est toujours d'actualité. La Commission électorale nationale indépendante va utiliser cet outil informatique à la place des bulletins utilisés en 2006 et 2011 pour, selon elle, faciliter le vote du 23 décembre. Mais cette machine ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Une frange de l'opposition demande même à ses partisans d'exiger le bulletin papier à la place de la machine le jour du scrutin. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Aller aux élections le 23 décembre avec ou sans la machine à voter, la question divise même au sein de l'opposition congolaise. Après avoir longtemps exigé le retrait de cet outil du processus électoral, l'UDPS Tshisekedi a fini par lever l'option d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Le parti de Félix Tshisekedi a été suivi plus tard par l'UNC de Vital Kamerhe. Mais à la coalition Lamuka, on continue d'exiger le retrait de la machine comme condition pour des élections apaisées et transparentes. La Commission électorale nationale indépendante, quant à elle, se montre catégorique. Sans la machine à voter, pas d'élection le 23 décembre 2018, n'a cessé de rappeler Corneille Nanga. Jean-Baptiste Itipo, le chargé de communication de la centrale électorale, évoque ici les avantages de cette machine.
La machine à voter offre la fiabilité du vote. Chaque électeur verra le candidat pour lequel il vote. Il verra également imprimé sur son bulletin la photo de son candidat avec les éléments de son identité, mais aussi des éléments liés à son appartenance politique. Deuxième avantage, c'est la rapidité. Nous aurons organisé 3 scrutins combinés directs le même jour et donc la machine à voter vient réduire le temps que chaque électeur est appelé à passer dans les bureaux de vote. La machine à voter vient faciliter même le dépouillement des résultats dans la mesure où nous aurons un bulletin unique et facile donc à dépouiller pour les 3 scrutins.
Pour sa part, Jérôme Bonso, expert en matière électorale, propose à la CENI de rechercher jusqu'au bout un consensus entre parties prenantes autour de l'usage de la machine à voter.
La rencontre entre CENI et la classe politique congolaise, le pro et anti-machine à voter, doivent constituer la recherche d'un consensus. Et le contenu qu'on donne à ce consensus, c'est un contenu technique. Et par consensus technique, nous pensons que les uns et les autres ont tout intérêt à intégrer les 15 recommandations de la firme britannique sur la mise en œuvre de la machine à voter.
Les Kinois interrogés par VOA Afrique sont, comme la classe politique, partagés également sur l'opportunité de cette machine lors du vote.
J'entends souvent parler de la machine à voter, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens qui peuvent me donner cette chance de voir comment est-ce que ça se passe. Ceux qui disent que nous irons aux élections sans la machine à voter, bon, je ne sais pas ce qu'ils pensent, hein, puisque c'est maintenant c'est la machine à voter. Donc, on pouvait les retirer du circuit depuis, mais comme nous sommes déjà là, c'est pratiquement impossible.
Cette machine-là, si on est en train de refuser ça, il y a quelque chose qui ne va pas.
On n'a pas le choix, comme il y a de la machine, on va avec la machine. Il y a la machine, c'est une évidence. Il faut y aller avec la machine.
Je n'ai jamais vu la machine à voter. Je ne sais pas comment utiliser ces machines-là.
Malgré une campagne de sensibilisation entamée depuis janvier 2018 et de nombreuses concertations avec la classe politique, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas réussi à dégager un consensus autour de cette machine à moins de 2 semaines des élections. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Dans les rues de Goma, capitale du Nord Kivu, les avis restent partagés sur une autre question, le scrutin présidentiel à un seul tour. Charlie Kasereka, correspondant de VOA Afrique à Goma, a recueilli à ce sujet les réactions suivantes.
Je m'appelle Monsieur Fiané Kabouya. Je suis habitant de la ville de Goma avec un pays comme la RDC. Parce que quand un président est élu à inférieur à 50%, ce n'est pas parce que là, ce n'est pas une représentativité de la population.
Moi, c'est Alain Djouma. Je suis habitant de la ville de Goma. Pour moi, c'est une crainte parce que le président qui sera élu n'aura pas assez de la majorité de la population congolaise ou les électeurs congolais. C'est à cause d'une élection d'un seul tour. C'est ça mon inquiétude.
Je me nomme Rubens Mikindo. Je suis le secrétaire général adjoint de l'IDPS. L'IDPS Tshisekedi en cycle.
Aujourd'hui, la CENI nous organise une élection en seul tour. Pour vous, c'est une crainte ou un avantage?
Non, il n'y a aucun avantage par rapport à ça. C'est que nous déplorons le fait qu'on avait changé ce système de G à l'avenir, et même si jamais nous sommes élus, parce que moi-même, je suis candidat député. Une fois, je me retrouve à l'Assemblée. C'est une question que nous devons revoir et revenir au système de deux tours. Parce que là, au moins, à la fin, quand vous avez les candidats, ils doivent débattre. Parce que la population doit connaître les idées des uns des autres. C'est pourquoi nous disons la démocratie en République démocratique du Congo est en panne. Même avec 10-11%, un président, il peut passer. Imaginez-vous, vous avez 21 candidats, mais un président peut passer avec 6-7%. Et là, ça sera un président de quel type de population?
Je m'appelle Mumbere Luanzo, je suis le coordonnateur interfédéral de la jeunesse du Birek au Nord Kivu, la coalition qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary. Dire que un tour c'est pour tel ou un autre tour c'est pour tel autre, non, c'est la constitution qui l'est dit. Et je ne vois personne qui puisse dire que ça va dans l'avantage de tel ou de tel autre. Ils doivent tous se soumettre. La loi est dure, mais c'est la loi. Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui réfléchissent en voudrant anticiper les contestations des résultats des élections. Ça, c'est aussi dangereux parce que c'est ce que moi, je suis en train de lire sans prêter des intentions à nos compatriotes de l'opposition, mais c'est ce que je suis en train de lire à travers leurs propos et même leurs comportements. La légitimité sociologique, ça veut dire quelqu'un qui a eu beaucoup plus de voix que les autres. Et c'est celui-là qui est élu.
Même avec 5%.
Même 5%. Mais ici, nous sommes en train de compter le nombre des gens qui vont élire tel par rapport à tel autre. C'est lui qui sera légitime, c'est celui-là qui aura beaucoup plus de voix que les autres et que les autres Congolais devront comprendre.
Réaction recueillie à Goma, capitale du Nord Kivu, en RDC, par Charlie Kasereka.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dénoncer le viol comme arme de guerre, tel est le combat qu'il a décidé de mener. En République démocratique du Congo, ce gynécologue a consacré sa carrière aux femmes et filles victimes de violences sexuelles. Comment est-il devenu une référence de la lutte contre la barbarie? Comment punir les auteurs de ces actes? À la star du docteur Mukwege, comment accompagner les victimes de sa communauté sur le chemin de la guérison physique et psychologique? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Patrice Edouard Ngaïsona, un ex-chef de milice anti-Balaka en Centrafrique et figure de proue des autorités du football africain, a été arrêté par les autorités françaises conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Idriss Fall a recueilli la réaction de Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Nous avons appris ce matin que Edouard Ngaïsona a été arrêté à Paris pour exécuter un mandat d'arrêt international décerné par la Cour pénale internationale. Nous avons noté que dans le mois, puisque c'est le 17 dernier, que Alfred Hécatombe, un caporal chef qui avait appartenu au mouvement anti-Balaka, a été arrêté et transféré à la CPI. Ngaïsona, qui avait été à un moment donné coordonnateur du mouvement anti-Balaka, a été arrêté à Paris et serait en voie d'être transféré à la Cour pénale internationale. Ce conflit, il y avait deux camps. Un camp qui avait semé la terreur et qui a donné naissance aux anti-Balaka, alors que le feu brûle encore sur les agissements de Séléka à Lindao, à Ipi, à Vatangafo, à Karabandoro hier, à Bambari pratiquement. Ce sont les autres qui se sont tués, qui sont déférés à la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est notre grand étonnement, alors que la Cour pénale internationale avait des moyens, avec les forces internationales qui sont ici, pour que les hauts responsables de notre groupe soit aussi recherché et ramené à la Cour pénale internationale pour garantir à cette haute juridiction toute sa neutralité.
Sans citer personne, vous pensez que les FACA ou bien l'ONU va tenter d'arrêter certains leaders de l'ex-Séléka?
La justice, si elle travaille en disant « puisque j'ai fait de l'autre côté, il faut que je fasse comme ça pour contenter les gens », ce n'est pas une bonne justice. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des crimes qui sont visibles, qui sont connus, mais qu'on a semblé fermer les yeux dessus. Je donne l'exemple. Vous avez deux volcans, un autre volcan qui s'est éteint et un autre volcan qui est en éruption. Et vous évacuez les gens autour du volcan éteint parce qu'ils seront en danger, alors que le volcan qui est en éruption présente de plus graves dangers. Ces agissements sélectifs risquent à ne pas en douter de créer d'autres tensions plus graves dans le pays.
Ça intervient alors qu'on vient de mettre en place à Bangui un tribunal spécial qui devrait s'occuper de ces questions-là, non ?
Spécial dont l'audience solennelle a été lancée, dont les stratégies de poursuite sont déjà adoptées. Les personnes qui refusent d'aller chercher par cette juridiction, cette cour pénale spéciale, ce sont les Alfred Hécatombe, ce sont les nationales, ce sont les autres. Mais on vient, on les recherche, cette cour pénale spéciale. Quel est son intérêt à ce jour? Mais pourquoi est-ce qu'on coupe l'herbe sous la cour pénale spéciale? La feuille de route de l'Union africaine, qui est la seule voie de sortie de crise, est-ce qu'on ne semble pas mettre en œuvre un mécanisme qui sont de nature à ce que la République centrafricaine ne sorte jamais de l'état de guerre qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui?
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Burkina Faso, on se souvient. Il y a 20 ans, jour pour jour, le journaliste burkinabé Norbert Zongo et trois de ses compagnons ont été assassinés. C'était le 13 décembre 1998 et l'affaire n'a toujours pas été élucidée. Mais récemment, lueur d'espoir pour les proches de Norbert Zongo, la justice française a donné son feu vert pour l'extradition de François Compaoré, le frère du président déchu Blaise Compaoré. Il est recherché au Burkina Faso pour la mort du journaliste. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le dossier du journaliste Norbert Zongo a beaucoup évolué ces dernières années. Il est resté 16 ans sans suite réelle. Il a fallu l'avènement de l'insurrection populaire en octobre 2014 pour donner un coup de fouet au dossier. Le temps passé sans justice a été dur pour la famille du journaliste. Robert Zongo, frère cadet de Norbert Zongo.
Nous vivons ça péniblement. 20 ans, c'est pas 20 jours, mais nous espérons. Nous avons cette soif de justice pour Norbert et ses camarades.
La justice française a autorisé le 5 décembre dernier l'extradition de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, présumé commanditaire de cet assassinat. Ce geste donne un grand espoir à tous ceux qui recherchent la justice pour Norbert Zongo depuis des années.
D'autres personnes sont aussi inculpées dans le dossier Norbert Zongo.
Maître Benewende Sankara est l'un des avocats de la famille de Norbert Zongo.
Il y a beaucoup d'indices qui ont pu être réunis par le juge. Nous qui avons accès au dossier, on peut soutenir qu'il y a certainement des charges qui vont peser sur des gens qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice burkinabé. 20 ans après, on peut dire que le temps était long, difficilement supportable par les victimes, les familles. 20 ans après, la lumière peut jaillir.
La famille du journaliste se dit toujours confiante.
La justice est ce qu'elle est. Il y a des procédures.
Robert Zongo, frère cadet de Norbert Zongo.
Mais déjà le fait d'avoir fait le pas, d'avoir autorisé son extradition, nous avons foi que François, quelle que soit l'année, il rentrera et il répondra de ses faits.
Abdoulaye Diallo, coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo, qui a connu le journaliste, reste convaincu que justice sera faite un jour.
C'est un journaliste de haut niveau, un professionnel jusqu'au bout des ongles. Norbert Zongo a fait tout ce métier sans jamais être pris à défaut sur le plan professionnel. Jamais. Il faut que les choses avancent. Mais comme on dit souvent, le temps de la justice n'est pas notre temps. Mais on a espoir parce qu'on est convaincu, on reste déterminé en plus, que tôt ou tard, il va falloir faire justice pour Norbert Zongo.
Depuis l'assassinat du journaliste en 1998, des manifestations des élèves, étudiants et organisations de la société civile n'ont jamais cessé pour réclamer justice pour les journalistes assassinés qui enquêtaient sur la mort de David Ouédraogo, le chauffeur du petit président, comme on l'appelait, François Compaoré, quand son frère était au pouvoir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.